Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Il est l'heure de retrouver Portrait de femme de notre matrimoine par Jacqueline Engrave. C'est un portrait de la seconde série, donc Portrait de femme exceptionnelle de tous les continents. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une artiste peintre féminine du XVIIe siècle italien, Artemisa Gentileschi. Gentileschi, j'appelle Gentileschi, qui est née à Rome en 1593. Elle est la première enfant d'un peintre réputé, Orazio Gentileschi, de son vrai nom Orazio Lomi. Elle fait preuve très tôt d'un talent artistique exceptionnel, bien plus grand que celui de ses frères, un talent que son père encourage, bien qu'il le jalouse. C'est lui qui l'élève car sa mère, Prudencia, est morte quand elle n'avait que 11 ans. Mais ce père, au caractère ombrageux, lui donne une éducation peu raffinée. Artemisia ne sait ni lire ni écrire. Confinée dans l'atelier, elle reprend les œuvres de son père en leur donnant une âpreté réaliste, accentuant le clair-obscur à la manière d'un peintre célèbre, ami d'Orazio, que l'on connaît bien, qui s'appelle le Caravage, ainsi nommé parce qu'il est né à Caravaggio, en Lombardie, son vrai nom étant Michelangelo Merisi. L'école des beaux-arts étant interdite aux femmes, son père la confie pour formation au peintre maniériste Agostino Tassi, un ami. Mais c'est un choix malheureux. Tassi, quoique peintre de talent, virtuose de la perspective, est un voyou qui, à 32 ans, a souvent eu affaire à la justice, qui toute sa vie a eu des procès pour inceste, viol, proxénétisme, etc. C'est un prédateur qui viole Artemisia le 9 mai 1611. Elle a 17 ans. Viol d'une brutalité qu'elle a décrite en détail dans un témoignage poignant le 18 mars 1612 lors du procès que son père Orazio a intenté à Tassi devant la justice papale pour, entre guillemets, défloration par force de sa fille. Rappelons que le viol est un crime, c'est l'une des expressions les plus brutales et traumatisantes de la domination masculine et qui perdure encore aujourd'hui. Le procès dure 9 mois, pendant lesquels Artemisia doit subir un humiliant examen gynécologique. On ne la croit pas d'emblée, c'est à la victime de prouver les faits, comme encore aujourd'hui. Pour cela, elle est soumise au supplice des « sibylli », entre guillemets, censés garantir la véracité de son témoignage. Cela consiste à passer une corde entre les doigts de la personne pour serrer très fort la corde au risque de briser les os. C'est une torture infligée à une victime. Cette agression et ses conséquences vont la marquer à vie. Artemisia précise qu'elle s'est défendue et a blessé son agresseur avec un couteau. Tassi est finalement condamné à 5 ans d'exil des États pontificaux, mais en fait, il ne quitte pas Rome et il s'en sort très bien. Mais Artemisia est très forte, elle ne se laisse pas abattre. Comme elle est publiquement déshonorée, pour retrouver un statut honorable, elle est contrainte d'accepter d'épouser un modeste peintre florentin, Pietro Antonio Sciateschi, avec qui elle s'installe à Florence. À Florence, là, elle connaît une carrière exceptionnelle. Les Médicis et autres mécènes lui passent des commandes nombreuses. Première femme à être acceptée à l'Académie de dessin grâce à l'entremise de son amant de cœur, Francesco Maringhi, elle gagne les faveurs de personnages influents. Le grand-duc de Côme II, la grande-duchesse Christine de Lorraine, Galilée, le petit-neveu de Michel-Ange, etc. Elle peint de nombreuses figures féminines auxquelles elle donne souvent son propre visage. Marie-Madeleine, Lucrèce, entre autres, et Judith, l'héroïne biblique de légende. Alors son chef-d'œuvre indéniable intitulé « Judith décapitant Holoferne » représente une scène morbide qui a inspiré et fasciné des peintres très célèbres, Botticelli, Rubens, Klimt, le Caravage, bien sûr. Mais le tableau d'Artemisia sort du commun et surpasse tous les autres par la violence qu'il dégage, son réalisme, la détermination froide d'une femme rageuse et vengeresse, aux longs bras puissants, acharnée à trancher le cou du général assyrien. Ce tableau, exécuté d'abord à Rome à l'époque du procès et des tortures d'Artemisia en 1612, puis repris en seconde version plus grande à Florence en 1620, donne à penser que l'artiste peintre règle ici un compte personnel avec son prédateur. De retour à Rome en 1621, son mari ayant mystérieusement et, on peut dire opportunément, disparu en 1623, elle mène une vie de femme libre, indépendante, elle élève seule ses enfants, prend des amants. Elle y connaît le succès entre 1620 et 1626 et a fait sa place dans la communauté artistique exclusivement masculine de Rome. Rome, ville d'art effervescente, passage obligé des artistes de toute l'Europe. Cependant, n'obtenant pas toutes les commandes qu'elle souhaite pour résoudre ses difficultés financières, sans doute aussi en raison de son sexe, face à la concurrence des nombreux peintres masculins, tous plus talentueux et productifs les uns que les autres, elle s'installe à Venise entre 1626 et 1630. Là, elle peint notamment le portrait d'un gonfalonier. Un gonfalonier, c'est un officier de justice en Italie. Judith et sa servante, Vénus endormie, Esther et Assuérus, etc., etc. Enfin, de 1630 à sa mort en 1656, elle vit définitivement à Naples, où elle s'occupe de sa famille, marie ses deux filles, accroît sa célébrité. Toutefois, cette période connaît une parenthèse. Elle rejoint son père, qui, installé à Londres, fit de nombreuses œuvres pour la royauté. C'est là que, en 1639, Orazio meurt brusquement dans les bras de sa fille. 2 ans après, non sans avoir peint un certain nombre de tableaux d'histoire pour le roi Charles Ier d'Angleterre, elle est de retour à Naples, où elle continue à vivre de son art et où elle décédera en 1656 à 63 ans. Certains livres datent sa mort de 1651. Alors, en conclusion, nous dirons que, bien qu'ayant connu la célébrité de son vivant à force de passion, de volonté, de persévérance, d'énergie, de vitalité et de talent, dans sa quête farouche de gloire et de liberté, elle avait conscience que sa situation défavorable de femme dans un monde masculin. Elle disait souvent, je cite, « Si j'avais été un homme, je doute que cela se serait passé de la sorte ». Un commentaire. Aujourd'hui encore, son chef-d'œuvre Judith décapitant Holoferne semble déranger les historiens de l'art, puisqu'ils évitent de le nommer. Le fait est que l'enjeu du tableau d'Artemisia n'est pas le même que pour les peintres masculins. Aussi, les historiens préfèrent-ils reproduire dans les livres cette même scène peinte par des hommes célèbres, comme le Caravage, comme on l'a dit, ou Botticelli, qui, non concernée par le viol en tant que victime, nous montre une Judith à la mine plutôt délicate en dépit de la cruauté du sujet. Pas une Judith spectaculaire comme celle d'Artemisia.
C'est oui. Qui était cette Judith ?
Alors, Judith, c'était, selon la légende biblique, c'était une veuve juive de la ville de Bethulie qui décapite le général assyrien Holoferne après l'avoir charmé et enivré, avec la complicité de sa servante. C'est pour ça que les tableaux reproduisent Judith et la servante. La légende veut que, par ce geste, la jeune femme ait sauvé son peuple, puisque le reste de l'armée a fui après la mort de son chef. Artemisia a vécu le fait que se consacrer à la peinture au début du XVIIe siècle représente pour une femme un choix difficile, une situation qui va durer tout au long des siècles suivants. Et encore aujourd'hui. Mais l'art féminin existe bel et bien. Artemisia nous prouve qu'il n'est pas insignifiant, mais au contraire aussi éclatant que l'art masculin. Il n'est pas, comme dit Andrea Dworkin dans son livre « Notre sang », un petit ruisseau dérivant du grand fleuve de l'art véritable que serait l'art masculin. Et ceci est valable pour toutes les artistes femmes d'hier et d'aujourd'hui, celles que nous avons vues dans notre première série, telles Rosa Bonheur ou Berthe Morisot pour les peintres, par exemple, et celles que nous aurons l'occasion de rencontrer dans cette deuxième série. Alors, les sources. Alors, essentiellement, le roman historique d'Alexandra Lapierre, Artemisia, un duel pour l'immortalité, édition Robert Laffont, 1998. L'histoire de l'art, tome 7, édition Grange-Batelière, 1975. Et l'article du journal L'Humanité du 1er août 2022 dans la série « Les artistes féminines pionnières ». Voilà. Et les hommages, eh bien on peut dire que grâce aux féministes, Artemisia Gentileschi a été remise à l'honneur ces dernières décennies. Après avoir été occultée par les historiens pendant des siècles, son œuvre et sa vie ont fait l'objet, outre le livre précité, de plusieurs expositions, d'un film, Artemisia, de Agnès Merlet, en 1997, et aussi d'un téléfilm, la même année.
Merci Jacqueline Engrave pour ces beaux portraits. Donc, c'était Artemisia Gentileschi, peintre, donc 1593-1656. À la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.